Écoutez, Fais voir le son, une émission proposée par Monsieur Monsieur sur Radio Campus Lille, 106,6 en modulation de fréquence et campuslille.com.
Que ta peau soit du café au lait, chocolat, du beurre ou du pain frais, quelle que soit la couleur, elle est pareille. Quand on regarde avec les oreilles, tout dépend de l'endroit où tu tapes, du coin de ta peau où tu frappes.
C'est pour les chérubins, les lardons et les gamins.
Cuisse, fais voir le son de ton vent, fais voir le son de tes côtes, fais voir le son de tes joues, bien tendues ou tout mou, bien tendu ou tout mou. Pomme rouge, citron, mandarine, d'un rosé violacé, petite mine. Toutes les peaux de la terre se ressemblent. Au micro sur un disque ou une bande, sur ton corps tu pourras l'écouter, si ton oreille sait regarder. Fais voir le son de tes cuisses, fais voir le son de ton ventre, fais voir le son de tes côtes, fais voir le son de tes joues, bien tendu ou tout mou, bien tendu ou tout mou.
Jusque 15h, vous entendez des sons d'enfants faits par les enfants de l'école Ampère à Lille. Écoutons à présent une invitation à la lecture, invitation faite par les CE1 d'Élise. Émile Bravo, au Seuil Jeunesse, a écrit « Boucle d'or et les 7 ours nains ».
Boucle d'or et les 7 ours nains.
Il était une fois cet ours nain qui travaillait dur dans les mines de sel. Un soir qu'il rentrait à la maison fourbu, ne souhaitant que deux choses.
La la la, manger. La la la, dormir. La la la, manger. La la la, dormir.
Mais pourquoi la porte est ouverte?
On a été cambriolés.
Les placards ont été dévalisés.
On a tout mangé dans mon bol.
Dans le mien aussi.
Ah, venez voir dans notre chambre.
Oh, une géante.
Elle a pris tous nos lits.
Aïe, aïe.
Qu'est-ce qu'on va faire?
Il faut appeler le prince tueur de géants.
Bravo!
Et voilà nos ours partis chercher du secours.
Si vous voulez connaître la suite de l'histoire de Boucle d'or et les 7 ours nains,
nous vous invitons à la lire.
Les élèves du CE2 CM1 d'Amélie ont fait, eux, un reportage de cours de récréation sur les jeux. Alors, ils sont allés voir les enfants dans la cour de récréation de l'école Ampère et leur ont posé 3 questions. La première, c'est « À quoi es-tu en train de jouer, là, tout de suite, maintenant, dans la cour ?» Ensuite, « À quoi tu joues quand tu es à la maison, chez toi ?» Et enfin, la troisième question, c'est « Quels sont pour toi les jeux les plus dangereux et les plus drôles ?» C'est pour les bébés, les pitchounes et les pitchounettes.
Les élèves de Madame Berthe ont fait un reportage pendant la récréation de l'école Ampère. On a demandé aux enfants à quoi ils jouaient.
À quoi joues-tu?
Je joue à la marraine.
Quelles sont les règles?
En gros, t'as un carré, je dois sauter. Le deuxième carré, en fait, si t'as un carré, bah tu sautes une fois, si t'as un deuxième carré.
Tu sautes deux fois.
Je joue au cache-cache. La règle du cache-cache, il faut compter jusqu'à 10. Et après, il y a des joueurs qui se cachent.
À quel jeu tu joues?
Au loup.
Au loup.
C'est quoi les règles?
Si tu touches, bah il est loup.
À quoi joues-tu?
Au foot.
Quelles sont les règles?
De ne pas pousser, de ne... les règles, je sais plus trop. Je sais plus.
De marquer.
Les règles, c'est de jouer, c'est de marquer, c'est de...
De jouer en équipe.
C'est de jouer en, en équipe. Et ne pas faire des embrouilles.
Basket.
J'étais en train de faire la course. Le premier qui est arrivé, il a gagné.
À la raquette. Quelles sont les règles? Bah, on doit lancer la balle à notre partenaire, enfin notre coéquipier.
À quoi joues-tu?
De badminton.
Quelles sont les règles?
Faites des passes avec les raquettes, bien sûr.
Non, mais là maintenant.
Bah, je vois rien.
C'est quoi les règles?
Bah, rien du tout.
Elle joue rien. Quand t'es pas dans l'école, t'aimes jouer à quoi?
J'aime jouer au loup.
Avec qui?
Avec mes amis.
Je joue avec mon copain, il s'appelle Imad.
Et tu joues à quoi avec ton copain?
Avec mon copain, je joue au loup.
Bah, déjà, j'aime bien jouer à ça. Et non, avec mon frère.
À Roblox, avec mes cousins et cousines,
et genre avec la famille,
copines, et la famille, voilà.
À quoi aimes-tu jouer en dehors de l'école et avec qui?
Au foot, avec mes amis, Aymen, Elias.
À quoi aimes-tu jouer en dehors de l'école?
Au foot.
J'aime jouer à manger, c'est trop bien. Genre, voilà quoi, tu manges en fait.
Mais après, vous allez envoyer à qui ça?
Avec ma mère et ma famille. Et ouais, je refais un pique-nique. On fait un loup-garou, des cache-cache et tout, c'est très bien.
On fait des loups avec nos frères, on joue au foot, on fait des 5-5.
Et il se passe quoi?
À quoi aimes-tu jouer en dehors de l'école?
Bah, aux jeux société.
Avec qui?
Bah, mes amis et ma famille.
Je fais des jeux de société et j'aime bien jouer à des jeux collectifs.
Et avec qui?
Avec mes amis, en fait.
Quand t'es pas dans l'école, tu joues à quoi?
Bah, je joue à rien.
Hein? Avec qui?
Bah, avec mon petit frère.
À quoi?
Bah, au ballon.
C'est quoi le jeu le plus dangereux et le plus drôle que t'as déjà fait?
C'est le bagarre.
La bagarre.
La bagarre?
La bagarre.
La bagarre.
La bagarre.
Je sais pas, frère, la bagarre.
Ça carré. Ils sont en train de jouer au loup.
La bagarre. Parce que quand on tombe à terre, c'est trop drôle.
D'accord.
Attends, j'ai pas envie de le dire parce qu'il y a un... Genre,
c'est un ballon. En fait, tu joues et si tu perds, bah t'envoies la balle sur une partie du corps. Ouais, voilà.
C'est un curieux, en fait. Mais on joue jamais à ça, c'est trop pas bien.
Vous allez l'envoyer à qui?
Le plus drôle, c'est celui où celui qui rigole en premier, il a un gage.
Ouais.
Et le plus dangereux, c'est celui où il y a quelqu'un qui est debout sur l'oreiller et il y en a un autre qui tire l'oreiller.
Le skate.
Escalader un mur.
Moi, c'est le drôle, c'est cache-cache. Ouais. Le dangereux, c'est lui qui marche dans un truc ruche.
T'as une ruche?
Monsieur, monsieur vous accompagne jusqu'à 15h avec des sons d'enfants sur Radio Campus. Allez, après toute cette agitation, on va faire un retour au calme. Avec la plus belle des berceuses. Oui, il y a mieux que le petit quinquin. La plus belle des berceuses, croyez-moi, c'est Toutouic de Colette Mani.
Jadis, Lola a pleuré bien souvent, mais aujourd'hui, elle sourit gaiement.
Se réveiller maintenant en douceur avec un livre écrit par Éric Sanvoisin et Martine Madge chez Nathan. Ce livre est très connu dans les écoles françaises. Il s'appelle « Le buveur d'encre ». C'est l'histoire d'un drôle de type qui boit de l'encre. Et les élèves de la classe de Jérôme, les élèves de CE2, en CE2 on a à peu près 8 ans, ont lu ce livre. C'est pour les chiards, les marmots, c'est pour les loupiots.
Le buveur d'encre.
Chapitre 1, la cachette. Papa est libraire. Il adore les livres. Il les dévore. C'est un ogre. Il lit toute la journée et parfois même la nuit. C'est une maladie incurable. Mais ça n'a pas l'air d'inquiéter notre médecin de famille. Chaque soir, une nouvelle pile de livres débarque à la maison. Il y en a partout jusqu'aux toilettes. C'est une invasion, impossible de râler. Avec papa, les envahisseurs ont toujours raison. Ils leur parlent comme à des êtres humains. Ils leur inventent des prénoms et les appellent mes petits bouquins. Tous les bouquins sont ses copains. Moi, je n'ai pas de copains et je n'aime pas les livres de l'extérieur. Je ressemble à papa, mais à l'intérieur, alors là, nous sommes deux étrangers. Maman fait semblant de ne pas s'en apercevoir. Elle nous aime tous les deux. Je suis le plus petit, mais elle ne me défend pas, même pas quand papa veut me forcer à lire. Vous vous rendez compte ? Les grandes vacances viennent de commencer. Je ne sais pas quoi faire. Alors, dites papa à la librairie, qu'est-ce que je fais ? Pas grand-chose. Il m'a interdit de ranger et même de toucher quoi que ce soit. Il paraît que le papier ne me résiste pas. C'est vrai que j'aime bien entendre le bruit d'une feuille en train de se déchirer. C'est beau comme un morceau de musique. Alors je guette les voleurs. C'est la seule chose qui m'amuse dans une librairie. Quand un livre disparaît dans la poche d'un pickpocket, je ne dis rien, je suis bien trop content. Un envahisseur de moi, mais cela arrive rarement. En général, papa détecte les voleurs au moment où il pénètre dans le magasin. La plupart du temps, je surveille les lecteurs, je les connais tous, ils ont leurs habitudes. Certains reniflent les livres comme s'ils choisissaient un camembert, d'autres se servent au hasard, ils adorent les surprises. La librairie, c'est une loterie, et puis il y a ceux qui n'arrivent pas à se décider. Ils prennent, ils reposent, ils reprennent, finalement se ravisent. Et remettre le livre à sa place. Souvent, ils repartent les mains vides, gênés de n'avoir rien acheté. J'ai une cachette dans le fond de la boutique. Une petite fenêtre se découpe dans un mur de livres. Personne ne peut me voir. Je suis un espion. Sur un cahier, je marque dans les moindres détails ce que j'observe. Un jour, je mettrai tout ça dans un livre, qui sait. Mais ça m'étonnerait car la grand-mère et moi, on ne s'entend pas. Tiens, nouveau client. Je ne le connais pas, celui-là. Jamais vu dans le quartier. Il vient peut-être de déménager. Je lui trouve une drôle de tête. Le teint gris, des sourcils en bataille et un air complètement ahuri. Et puis, il se livre à un curieux manège. On dirait qu'il flotte à 10 cm du sol. Comme un fantôme, je trouve son comportement bizarre. Oh!
Chapitre 2, rôle de client. J'ai vu de mes yeux vu le client inconnu boire un livre. Non, je n'ai pas la berlue. Pendant 5 minutes, il s'est promené dans les rayonnages. Les yeux fermés, il se déplaçait en silence, les bras tendus droit devant lui. On aurait dit qu'il écoutait le bruit des livres. Subitement, il a saisi un petit bouquin. Et tout est devenu encore plus fou. Il ne l'a pas ouvert. Il a seulement écarté les pages du milieu et là, dans la fente ainsi pratiquée, il a planté une paille, tout juste sortie de sa poche. Sa bouche s'est mise à aspirer. Sur son visage, il y avait du plaisir, comme si le livre contenait du jus d'orange et des glaçons. Il faut dire qu'il faisait très chaud, un temps à ne pas s'aventurer dans une librairie. J'ai poussé un petit cri de stupéfaction. Je sais, je n'aurais pas dû. Aïe ! Je crois qu'il m'a entendu. Il a remis le livre à sa place, a rangé sa paille et s'est dirigé vers la sortie. Aussitôt, j'ai bondi de ma cachette pour examiner le livre dans lequel la paille s'était plantée. Je n'ai pas eu de mal à le retrouver. Il était moins épais que les autres et avait une consistance caoutchouteuse. En le soulevant, je l'ai trouvé d'une légèreté extraordinaire. S'il y avait eu un coup de vent dans la boutique, il se serait envolé. Mais quand je l'ai ouvert, j'ai failli m'évanouir. Il était vide. Sur les pages, il ne restait pas le plus petit mot. L'étrange client avait bu toute l'encre du livre.
Chapitre 3, la poursuite. Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. Mon excitation était bien trop grande. Il fallait agir tout de suite. J'étais sûre que le drôle de client ne reviendrait plus jamais dans la boutique. Il m'avait entendu et savait que quelqu'un l'avait surpris au milieu de sa dégustation. J'avais le choix entre tout raconter à papa et mener seule ma petite enquête. De toute façon, papa n'allait jamais me croire. Connaissant mon allergie à la lecture, il était même capable de m'accuser d'avoir gommé les lettres une à une. Alors je me suis élancée sur les traces de l'étrange lecteur. Où vas-tu ? M'a demandé papa. Je sors. Dans la rue, le soleil m'a assommé à moitié. J'ai eu peur de m'être décidé trop tard. Le buveur d'encre avait disparu. Choisi au hasard un côté du boulevard et je me suis mis à courir. Slalomant entre les passants, j'ai bien parcouru 300 mètres sans rien voir. Non, non et non, je ne voulais pas renoncer. Pour une fois qu'il se passait quelque chose de pas commun dans ma vie. Je me suis accrochée et j'ai fini par apercevoir mon bonhomme. Je l'ai reconnu à son allure particulière. Il avançait vite, sans bouger les jambes. Tout le monde s'écartait avec crainte sur son passage. Derrière un arbre, j'ai repris ma respiration et je lui ai emboîté le pas. C'est ainsi que je me suis retrouvée devant la grille du cimetière. Chapitre 4. Dans le cimetière. Brrr, j'ai frissonné malgré moi. Un cimetière, ça n'est pas un endroit pour les enfants. Continuer pouvait se révéler dangereux. Mais j'ai continué. Je suis un homme d'action, pas une mauviette. Mon suspect avait pris de l'avance dans l'allée principale. J'ai accéléré l'allure pour combler la distance qui nous séparait. Soudain, il a bifurqué dans un petit allée qui partait en diagonale. Le temps d'arriver à l'embranchement, il n'y avait plus personne. Un gros mot m'a échappé. Quel nul ! Comme je ne voulais pas avoir parcouru tout ce chemin pour rien, j'ai serré les dents et je me suis engagé entre les pierres tombales. Partout, des noms et des dates étaient gravés dans la pierre. Je ne connaissais pas tous ces gens qui reposaient sous terre, mais ça me gênait de leur marcher dessus. J'étais si pressée que je n'ai dit bonjour à personne. Les morts ont dû me trouver bien mal élevée. L'un d'eux avait bu le livre. Où se cachait-il ? Il n'était pas donné à tout le monde de rencontrer un vampire. Et il était encore plus rare d'en découvrir un qui suçait l'encre des petits bouquins. Quelle chance j'avais et quelle trouille. Là, un étrange monument se dressait au milieu de l'allée et représentait une bouteille d'encre. Incroyable. Mes genoux se sont entrechoqués. Dehors, il faisait jour. Mais dans ma tête, c'était le noir complet. Comme un automate, j'ai poussé la grille de ce caveau bizarre. Elle n'était pas fermée à clé. Un escalier s'enfonçait dans les profondeurs de la terre. J'ai descendu les marches au ralenti. Du plafond tombaient des toiles d'araignée qui se collaient dans mes cheveux. Brrr. En bas se trouvait une petite salle ronde dont les parois étaient tapissées de livres. Des milliers de volumes se serraient les uns contre les autres comme des petits soldats au garde à vous. Étrange bibliothèque. Le garde mangeait du monstre. Quelques bougies éclairaient un cercueil en forme de stylo plume, posé sur des tréteaux. À l'intérieur, eh bien, mon suspect ronflait. Une couverture masquait son corps. Seule sa tête était visible, reposant sur un gros oreiller de satin. Sur sa peau de papier mâché, des petites lettres semblaient incrustées comme des taches de rousseur. Je me suis approchée pour les voir. Brusquement, il s'est redressé et ses yeux se sont posés sur moi, fixes et injectés d'encre noire. Mon sang s'est mis à bouillir. Je me suis sentie tout à coup comme un enfant à la coque. Les vampires aiment-ils les mouillettes ? Chapitre 5. Vampire. J'étais cloué sur place par la peur. Impossible de m'enfuir. Mes cordes vocales étaient toutes molles. Impossible de crier. Qu'est-ce qui t'amène, petit ? Il avait une voix douce et sifflante. Vite, trouver une réponse intelligente. Je venais voir ma grand-mère. J'ai dû me tromper de porte. Ta grand-mère habite dans ce cimetière ? Non, je me suis aussi trompé de cimetière. Il a grogné. J'ai sursauté. Sa langue pointue et menaçante, semblable à un morceau de papier buvard, s'agitait entre ses lèvres.
Tu m'as suivi, petit? Pourquoi? À quoi bon mentir? Il semblait lire dans mes pensées. Vous avez bu un livre, je vous ai vu. Voilà donc la raison de ta présence ici. Tu es bien à présent. Sais-tu qui je suis? Un vampire? En effet, tu as de la chance que je sois devenu allergique au sang après en avoir bu pendant 5 siècles. Sinon... Je n'ai pas essayé d'imaginer ce qu'il voulait dire par là. Pourquoi vous avalez de l'encre, monsieur?
À cause d'une crise de foie qui dure depuis 72 ans. C'est le seul aliment qui passe et puis c'est nourrissant.
Ah, mais pourquoi ne pas acheter tout simplement des bouteilles d'encre en installant un réfrigérateur dans cette crypte? Vous pourriez rester bien tranquillement chez vous.
Non, petit. L'encre liquide est fade, c'est comme un régime sans sel. Par contre, l'encre qui a vieilli sur le papier possède une saveur incomparable. Un vrai régal.
J'ai fait la grimace. Un régal, tu parles.
Tu ne me crois pas? Si, si, j'ai commencé à reculer. Non, tu ne me crois pas, qu'à cela ne tienne. Je vais te donner le goût de l'encre. Demain, tu comprendras.
Il a jailli comme un diable de son cercueil. À la place des dents, il avait des plumes sergent-major. Son sourire était aveuglant. Et si proche, à vol noir, s'est posé sur moi, tout doucement, comme du coton.
Chapitre 6. Les vampires n'existent pas. Personne ne boit un bol de sang pour son petit déjeuner, et encore moins de l'encre avec une paille. Je déteste les cauchemars, ça me donne les chocottes. Je m'étais endormie dans ma cachette, la librairie allait bientôt fermer. Il ne restait qu'un ou deux clients retardataires. Dans mon bras, une forte démangeaison m'a réveillée. Mes efforts pour la dissiper sont restés vains, elle semblait venir de l'intérieur de ma chair. Pour être bien sûr que j'avais rêvé, j'ai feuilleté quelques livres, tout allait bien, ils étaient bourrés de textes. Je suis retournée somnolée dans ma cachette, une faiblesse étrange rendait mon corps lourd. Papa a fermé la porte du magasin à double tour. Clac, enfin tranquille, quelqu'un dans la boutique. Je me sentais merveilleusement bien dans le noir. Dire que papa ne s'était aperçu de rien. Sûr qu'il allait me chercher, mais j'avais mieux à faire que de rentrer me coucher à la maison. Sagement alignés sur leurs étagères, les livres m'appelaient. Viens, ouvre-nous! C'était bien la première fois qu'un livre me faisait envie. Viens, feuillette-nous! Dans ma poche, il y avait une paille. Quelle chance! Délicieux! La première gorgée m'a fait l'effet d'une décharge électrique. Aussi curieux que cela puisse paraître, j'étais en train de manger des fraises et de croquer des paragraphes. Les petits bouquets étaient aux petits oignons. Mais le plus étonnant était que la saveur qui inondait ma langue variait suivant les mots et les passages du texte. Ce n'était pas l'encre elle-même que j'absorbais, mais de l'aventure à l'état pur. Sur une mer déchaînée, deux navires s'affrontaient à l'abordage. Les pirates, à sabre entre les mâchoires, se riaient férocement. Je ne lisais pas ce qui arrivait, je le vivais, j'étais le capitaine des corsaires du roi et je défendais chèrement ma peau. Tout à coup, je me suis retrouvée face à un diable avec un bandeau sur l'œil et une jambe de bois. Le terrible capitaine Flint! Nous avons croisé le fer, j'étais épuisée. Mes bras ne répondaient plus. Dans un dernier effort, je me suis jetée sur mon adversaire. Il a esquivé, je suis passée par-dessus bord. Au moment où j'aspirais les premiers mots du deuxième chapitre, la lumière s'est brutalement allumée. J'ai avalé de travers. Papa était là! Viens te coucher, garnement! Il n'a pas compris ce que je fabriquais avec le petit bouquin. Je t'avais demandé de lire des livres, pas de les mâchouiller! En apercevant la paille et l'un qui dégoulinait sur mon menton, son air fâché s'est envolé. Tu as été mordu par un chien? Pas exactement. Il croyait sans doute que j'avais la rage. Je l'ai rassuré en lui affirmant que c'était du chocolat et il m'a cru. Pourtant, il n'avait pas tout à fait tort, j'avais bel et bien été mordu, mais pas par un chien. Quand je m'étais évanouie dans la crypte, le vampire avait gravé son nom sur mon bras avec les plumes qui lui servaient de dents. Draculivre. Désormais, je lui appartenais, qui était devenu un buveur d'encre. Alors, pour la première fois de ma vie, je me suis réjouie d'avoir un papa libraire.
J'ai rencontré trois escargots, oui, 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 trois escargots, qui s'en allaient car tableau d'eau, qui s'en allaient car tableau d'eau. Puis dans les champs, quatre lézards, oui, 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 quatre lézards, qui écrivaient un long devoir, qui écrivaient un long devoir. Où peut se trouver leur école? Oui, 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 leur école. Au milieu des avoines folles, au milieu des avoines folles. Peut-être est-ce une aristoloche? Oui, 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 aristoloche. Qui leur sert de petite cloche, qui leur sert de petite cloche. Et leur maître est-il ce corbeau? Oui, 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 ce corbeau. Que je vois dessiner là-haut de belles lettres au tableau.
C'est dans les années 60 que Jacques Douai chantait ses chansons pour enfants. Peut-être que vous vous souvenez encore, pour les plus anciens des auditeurs de cette station, de son fameux album Jacques Douai chante pour les enfants. On devine facilement pourquoi cet artiste a pris ce pseudonyme, et on a raison. Vous écoutez Fait voir le son avec Monsieur Monsieur. Jusque 15h, on écoute des sons d'enfants sur Radio Campus 106,6 et campuslille.com. Mais pas n'importe quels enfants. Il s'agit des élèves de l'école Ampère à Lille, dans le quartier de Oisem, à l'angle du boulevard Montebello et de la rue d'Iéna, juste à côté du métro Montebello. Depuis 13h et jusqu'à 15h, on écoute des sons d'enfants. Des débats, des podcasts, des histoires, des reportages. Et une interview cette fois-ci. Une interview réalisée par les grands du CM2 de l'école. Hein, c'est les plus grands qu'on trouve dans l'école primaire. En CM2, on a entre 10 et 11 ans, disons, surtout en cette fin d'année. Et les élèves de Sabine, du CM2 de Sabine, ont interviewé une productrice d'endives. C'est pour les minots, les têtards, c'est pour les bouts de choux. Et on écoute tout de suite le reportage de Sabine, et on l'écoute tout de suite, c'est maintenant.
Bonjour, nous sommes la classe de CM2 de l'école Ampère. Tout d'abord, merci de nous accueillir aujourd'hui à l'école. Nous avons un projet de faire une soupe à l'endive, et nous voudrions vous poser quelques questions sur la ferme et la culture des endives. Notre première question est celle-ci. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une ferme expérimentale urbaine?
Une ferme expérimentale urbaine, pour moi, c'est un espace où on produit des légumes, où on élève des animaux, comme une ferme en campagne, et on expérimente, c'est-à-dire on teste des productions mais adapté au milieu de la ville. C'est-à-dire, c'est peu d'espace. Parfois, c'est peut-être des sols qui sont bétonnés, qui sont anciennes d'usines, qui sont peut-être pollués. Donc nous, on travaille sur des cultures uniquement hors du sol. Parfois, c'est des bacs qu'on construit en bois surélevé. Parfois, c'est des cultures aussi en eau, où on vient faire pousser des plantes qui poussent grâce à une sorte de d'eau et d'engrais que les racines viennent pomper, et c'est comme ça qu'elles grandissent.
Notre deuxième question et les suivantes porteront sur la culture des endives. Voici donc la première d'entre elles. Pouvez-vous nous montrer et nous expliquer ce qu'est une endive ?
La racine d'endive a fait pousser ce qu'on mange, nous. Donc une endive, c'est une salade. Effectivement, c'est de la famille de la chicorée. Il faut savoir que cette salade, à la base, elle pousse du coup en pleine terre. Donc cette racine, elle a mis 6 mois à grandir en pleine terre. On lui a arraché ses feuilles vertes, là, l'automne dernier. Donc tout ça, les feuilles, elles sont parties au compost, au cochon. Nous, c'est pas bon pour nous, c'est beaucoup trop amer. Mais ce qui nous intéresse, c'est les jeunes feuilles qui peuvent ressortir au noir de cette racine. Donc la racine, on l'a nettoyée, on l'a un peu coupée, puis on l'a remis dans un pot, en l'occurrence, mais on peut mettre ça dans la terre dehors, où il y a des petites racines qui ressortent, des radicelles. Ça va permettre d'aller chercher l'eau, et l'eau va rentrer dans la racine pour faire ressortir du bourgeon, d'où on a coupé les feuilles, des nouvelles feuilles. Et elles sont vertes, elles sont plus vertes, pardon, elles sont blanches, parce qu'elles n'ont pas vu la lumière du soleil. Il y a un petit pigment dans la feuille, dans toutes les feuilles vertes, qui permet en fait de transformer l'énergie du soleil en énergie pour la plante. Et puis elle fabrique ses sucres un peu, et elle fabrique aussi voilà, c'est la chlorophylle, le pigment, tout à fait. Mais la feuille d'endive, elle a pas de chlorophylle parce qu'elle est pas au soleil, elle est très très bonne comme ça, donc on la mange comme ça.
Pouvez-vous d'abord nous expliquer ce qu'il faut en termes de matériel pour faire pousser les endives?
Comme vous voyez devant vous, il vous faut un seau et un carton qui permet de faire un petit chapeau pour que les endives ne voient pas la lumière du soleil ou de notre pot de pièce à vivre. Il vous faut de l'eau qui est au fond du seau, ou de la terre. Vous pouvez très bien planter ces racines dans de la terre. Et il vous faut bien sûr des graines de chicorée ou des racines.
Autre question utile. De quels ingrédients avons-nous besoin? Faut-il des graines ou des racines d'endives? Et comment s'en procurer?
On peut prendre du coup des graines qu'on sème au printemps. On attend 6 mois pour ensuite récolter la racine. On peut aussi demander à des producteurs, des maraîchers, de nous donner des racines directement, et eux, ils arrivent à les conserver dans des frigos. Donc on peut stocker comme ça des racines en frigo, froid, pour éviter que la pousse blanche sorte trop vite. Et voilà, comment s'en procurer? Au marché.
Pouvez-nous indiquer aussi quand planter les endives et quand les récolter?
On sème au printemps, on plante pas, c'est mieux de semer directement dans la terre. Par contre, pour faire forcer les endives, on les fait pousser finalement quand on veut dans l'année, du moment qu'on a la racine qui est bien froide. Il faut pas qu'elle ait démarré sa pousse avant qu'on la mette dans l'eau et surtout à l'ombre. Par contre, une température de 15 degrés, c'est bien. Faut pas plus froid. Sinon, ton endive, elle va pas sortir de sa racine. Et faut pas trop chaud non plus. Faut pas aller plus de 20 degrés.
Est-il possible de vous poser une question personnelle?
Oui, bien sûr.
Quel est votre plat préféré à base d'endive?
J'aime beaucoup la tarte pomme endive. Parce que je trouve que ça se marie très très bien. Et elle peut se déguster en salé ou en sucré. On veut en salé si on met plus d'endive et en sucré si on met plus de pommes.
Maintenant que vous nous avez mis l'eau à la bouche avec votre plat préféré à base d'endive, dites-nous les différentes étapes de la production d'endive, telle que vous la pratiquez ici dans la ferme.
Donc moi je travaille avec un maraîcher qui vient au marché de Hélène et je lui commande mes racines. Et ensuite je les nettoie parce qu'elles sont pleines de terre. Je les coupe au fond pour qu'il y ait plus, comme une fleur coupée dans un bouquet, qu'il y ait plus de, je dirais, surface d'échange avec l'eau dans laquelle on pose nos endives. Je vais après peut-être enlever les dernières feuilles vertes qui sortaient du champ. Et puis ensuite, je les mets dans ce seau à l'ombre. Et tout doucement, ça sort de sa racine. C'est très très simple et je vous invite à le faire. Parce que ça, c'est super bon et puis on fait plein de bonnes choses, notamment une soupe apparemment.
Un grand merci pour toutes ces explications qui nous éclairent sur la culture d'endive. En espérant avoir donné envie à tous ceux qui nous écoutent de la faire pousser, de faire pousser le fameux chicon du Nord, qui est l'autre nom de l'endive.
Eh oui, les endives, les chicons, ça pousse dans le Nord. Là aussi, on a vu naître cette autre berceuse qui nous amène peu à peu vers la fin de cette émission en douceur. Monsieur, monsieur est avec vous jusque 15h sur Radio Campus.
Dans mon enfant, l'usine a fermé ses portes. Il faut bien se reposer. Demain quand tu seras grand, que le sommeil t'apporte volonté pour lutter. Dorme, Mathieu, le monde sera beau quand nous l'aurons changé. Les yeux fermés, tu t'endors dans le silence. Je pense à ton avenir. Je voudrais tant te donner une récompense, mais on n'a même pas de quoi se nourrir. Dorme, Mathieu, le monde sera beau quand nous l'aurons changé. Dors maintenant, fais le rêve que je chante d'un monde enfin délivré. Des patrons suceurs de sang, de ceux qui mentent, vivant du travail des ouvriers. Dorme, Mathieu, le monde sera beau quand nous l'aurons changé. Dorme, Mathieu, le monde sera beau quand nous l'aurons changé.
Jules Bolchaud, Dorme, Mathieu. Fais voir le son. Émission spéciale enfants sur Radio Campus ce samedi 5 juillet entre 13h et 15h. Je vais vous faire écouter un tout dernier son réalisé par les élèves de l'école Ampère à Lille-Oisem. Ah, j'avoue, c'est mon préféré. Il est fait par les élèves les plus jeunes que vous allez entendre aujourd'hui, des CP. En CP, on a à peu près 6 ans. Hein. Dans la classe de CP de Monsieur Antoine, à l'école Ampère, on étudie les oiseaux depuis le début de l'année. Quand vous interrogez les enfants, spontanément, ils peuvent vous décrire le pique-et-pêche ou la tourterelle turque. Alors on leur a tendu le micro, on leur a demandé de décrire les oiseaux qu'ils connaissaient. On leur a demandé aussi d'imiter ces oiseaux. Et par la magie du mixage sonore, on a mélangé leurs imitations d'oiseaux au véritable son des véritables oiseaux en question. Et enfin, on leur a demandé d'inventer un oiseau. Alors, comme ils ont remarqué que les noms des oiseaux étaient des noms composés, hein, vous voyez, le pique-et-pêche, le rouge-gorge, la tourterelle turque, il y a toujours en fait un nom qui correspond à l'espèce et l'autre, en gros, à la variété. Alors, ils ont inventé eux-mêmes, à partir de leurs prénoms, des noms d'oiseaux et des chants propres à eux. On écoute les CP d'Antoine de l'école Ampère et leurs études sur les oiseaux.
Nous sommes les élèves de la classe de CP de M. Antoine et nous étudions les oiseaux. La Uffaciée, ses ailes sont rayées de noir, son croupion est orange et sa tête est rousse, son bec est grand, ses pattes sont noires. Je m'appelle Imad et je vais imiter l'Uffaciée. Voici une description de quelques oiseaux. La tourterelle turque a un petit bec et des pattes oranges. Ses griffes sont beige, sa queue moyenne. Je m'appelle Maya et j'imite la tourterelle turque. La bergeronnette grise. Elle a une tête blanche, un corps blanc et des ailes noires et blanches. Sa nuque est noire et ses ailes sont grises. Son petit bec est noir, ses pattes sont grises. Bonjour, je m'appelle Haroun et j'imite la bergeronnette grise.
Familier dort dans un nid, sa gorge est orange, son bec est noir, ses pattes sont oranges, sa tête est grise, les ailes sont marron, ses yeux sont noirs et ses plumes jaunes. Je m'appelle Fawaz, j'imite le rouge-gorge. Le rouge queue a la gorge noire. Il a des ailes oranges. Ses pattes sont noires et blancs. Son front est gris. Son bec et ses yeux sont noirs. La poitrine est orange. Ses plumes sont marron.
Je m'appelle Bilal et j'imite le rouge queue.
Nous avons inventé des oiseaux avec leur chant.
Je suis la Lilia Rouge et voici mon chant.
«
Je suis la mage de une fleur et voici mon chant.
Je suis le Mohamed Rhin et voici mon chant. Tout, tout, tout.
Je suis le Emad Pastèque et voici mon chant.
Je suis la Décimeur et voici mon chant.
Pip, 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 pip.
Y a pas que sur terre les petits enfants de verre, y a aussi des fois les petits enfants de bois, les petits qu'on attache au pan de leur tâche et qui vieilliront bonnets d'âne au front. Y a pas que sur terre les petits enfants de verre, y a aussi des fois les petits enfants de bois. Y a pas qu'elle au monde, les petites feuillottes blondes, les petits pulls à roses qui s'engueulent en prose. Faut pas oublier les petits en papier, les petits au charbon et ceux en carton. Y a pas que sur terre les petits enfants de verre, y a aussi des fois les petits enfants de bois. On dirait qu'il y a que les petits au sang bleu, les petits puis la chance, 3 mois de vacances. Il y a des fois aussi les petits montent tout gris qui fument en cachette l'avenir qui les regrette. Il y a pas que sur terre les petits enfants de fer, il y a aussi des fois les petits enfants de bois. Qu'elles sous le ciel, les tartines de miel, les petits gna 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 qui sucent du nougat. Y'a des fois encore des petits enfants morts, y'a des fois toujours des petits morts d'amour. Y'a pas que sur terre les petits enfants de fer, y'a aussi des fois les petits enfants.
Après Alain Leprest et des petits enfants de verre, on écoute Vincent Malone, Un monde sans problème.
On passe tous son temps à se poser des questions auxquelles après il faut répondre. La vitesse des trains, la hauteur des navions, comment les ours se font pour pondre. On se casse la tête, on est plein de boutons,
on frôle la crise cardiaque.
On s'énerve, on crie, alors qu'au fond,
qu'au fond il n'y a qu'à chanter comme moi ce refrain-là. Vous allez voir, c'est plein d'espoir.
Si un jour le monde était sans problème, la vie serait plus belle que tout, plus que tout. Si un jour le monde était sans problème, la vie serait plus belle, un point c'est tout. Si un jour le monde était sans problème, la vie serait plus belle que tout, plus que tout. C'est moi qui le dis, moi reine des bois, et truc et gros bisous.
Si on décidait comme ça tout à coup que les robinets qui goûtent ne goûtent plus du tout, que les circonférences non aucune importance, on se casserait moins la tête, on n'aurait plus de boutons,
ce serait paradisiaque.
On s'énerve, on crie, alors qu'au fond,
qu'au fond il n'y a qu'à chanter comme nous ce refrain loup. Vous allez voir, c'est plein d'espoir.
Si un jour le monde était sans problème, la vie serait plus belle que tout, plus que tout. Si un jour le monde était sans problème, la vie serait plus belle, un point c'est tout. Si un jour le monde était sans problème, la vie serait plus belle que tout, plus que tout. C'est moi qui le dis, moi reine des bois. Et truc et gros bisous, 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 bisous. Si un jour le monde était sans problème, la vie serait plus belle que tout, plus que tout. Si un jour le monde était sans problème, la vie serait plus belle, un point c'est tout. Si un jour le monde était sans problème, la vie serait plus belle que tout, plus que tout. C'est moi qui le dis, moi reine des bois. Et truc et gros bisous, 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 bisous.
Partout, on passe tous son temps à se poser des questions auxquelles après il faut répondre. La vitesse des trains, la hauteur des navions, comment les ours se font pour pondre. On se casse la tête, on est plein de boutons.
On frôle la crise cardiaque.
On s'énerve, on crie, alors qu'au fond,
qu'au fond il n'y a qu'à chanter comme moi ce refrain-là. Vous allez voir, c'est plein d'espoir.
Si un jour le monde était sans problème, la vie serait plus belle que tout, plus que tout. Si un jour le monde était sans problème, la vie serait plus belle, un point c'est tout. Si un jour le monde était sans problème, la vie serait plus belle que tout, plus que tout. C'est moi qui le dis, moi reine des bois. Et truc et gros bisous.
Si on décidait comme ça tout à coup, que les robinets qui goûtent ne goûtent plus du tout, que les circonférences n'ont aucune importance, on se casserait moins la tête, on n'aurait plus de boutons,
ce serait paradisiaque.
On s'énerve, on crie, alors qu'au fond,
qu'au fond il n'y a qu'à chanter comme nous ce refrain loup. Vous allez voir, c'est plein d'espoir.
Si un jour le monde était sans problème, la vie serait plus belle que tout, plus que tout. Si un jour le monde était sans problème, la vie serait plus belle, un point c'est tout. Si un jour le monde était sans problème, la vie serait plus belle que tout, plus que tout. C'est moi qui le dis, moi reine des bois. Et truc et gros bisous, 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 bisous. Si un jour le monde était sans problème, la vie serait plus belle que tout, plus que tout. Si un jour le monde était sans problème, la vie serait plus belle, un point c'est tout. Si un jour le monde était sans problème, la vie serait plus belle que tout, plus que tout. C'est moi qui le dis, moi reine des bois. Et truc et gros bisous, 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 bisous.
Ça c'était pour les petits gibus, les gavroches, les morveux, les filles, les garçons et les petits loustiques. C'était Fais voir le son. Une émission proposée avec les sons des élèves de l'école Ampère à Lille-Oisem. Un grand merci aux instituts de l'école Ampère pour avoir porté ce projet pas facile et exigeant. Merci aussi aux AESH qui ont donné des coups de main. Et surtout un grand merci à tous les élèves de l'école Ampère d'avoir joué le jeu et si bien su s'approprier la radio. Cette émission a été réalisée par Monsieur aka Seb, qui vous donne rendez-vous sur l'antenne de Radio Campus le lundi à 19h. Radio Campus Lille, c'est 106,6 en FM et campuslille.com sur Internet. La suite des programmes sur Radio Campus, eh bien, après une heure de musique, vous allez retrouver votre émission littéraire d'été Fabula Narratur, une émission dont il est possible de prononcer le titre, mais c'est vrai, après un long entraînement. Et c'est Miles Davis qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Vous pouvez réécouter cette émission qui a eu lieu de 13h à 15h ce samedi 5 juillet. Pour ce faire, allez sur le site campuslille.com, vous allez dans l'onglet programme, vous cherchez samedi, puis la date, le 5 juillet. Ne tenez pas compte du nom des émissions, on est maintenant en période de vacances, alors on a pris la place d'autres en réalité. Allez chercher les horaires, 13h à 14h et puis 14h à 15h. Ah oui, j'oubliais tous nos vœux de réussite à tous les CM2 de l'école Ampère qui quittent l'école cette année pour aller au collège l'année prochaine. Et pendant les vacances, voici les conseils de Monsieur Monsieur. Vous pourrez toujours réviser vos tables de démultiplication. Faites-vous donc des autodictées, par exemple. Créez-vous vous-même des problèmes et résolvez-les facilement par internet.